Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 16 décembre 2022. Nous allons vous présenter le journal, suivi d'un commentaire politique. Des campagnes persistantes d'iranophobie affecteront les intérêts mutuels, l'Iran met en garde l'Union européenne. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les calculs de l'ennemi dans le récent complot se sont avérés faux. Déclaration ce matin du président Raïsi. L'Iran a critiqué la dernière résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Iran, affirmant qu'elle manque de légitimité et de crédit. Et puis le département américain de l'énergie reconnaît l'échec de l'embargo pétrolier contre l'Iran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les calculs de l'ennemi dans la récente conspiration se sont avérés faux. Comme tous ces calculs, les séditions précédentes et la présence du peuple intelligent et éveillé d'Iran a une fois de plus empêché les conspirations de l'ennemi de se concrétiser, a déclaré le président de la République islamique d'Iran, Seyed Ebrahim Raïsi, ce matin. Selon le rapport de l'IRNA, le président Raïsi, s'exprimant lors d'une réunion avec différents groupes de la population de la ville de Nahbandan, au nord-est de l'Iran, ce vendredi 16 décembre, a ajouté « Dans cette conspiration, les ennemis pensaient que l'Iran est comme les autres pays victimes et qu'ils peuvent manipuler notre peuple comme une marionnette et mettre des slogans intéressés dans sa bouche. » Ils pensaient qu'en avançant le mot de la vie, les gens feraient confiance à leurs paroles. Les gens les connaissent bien et savent qu'ils ne donneront la vie à personne dans le monde et qu'ils sont plutôt en leveur de la vie des gens, a déclaré le président. Et de poursuivre, dans quelle partie et dans quelle région du monde vous avez donné la vie? Il y a une frontière à côté de nous, de l'autre côté de la frontière, en Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays ? S'interroge le président. Ce qui a rendu l'ennemi incapable jusqu'à présent de réaliser ses velléités et de mettre en œuvre ses conspirations, c'est la présence, la perspicacité, l'enthousiasme et la compréhension du peuple qui sait qu'il faut se tenir debout de toute sa présence et de sa force pour préserver les valeurs de la révolution islamique, a conclu le président Raïsi. L'Iran a critiqué la dernière résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans le pays, affirmant qu'elle manque de légitimité et de crédit. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que la résolution qui a été dirigée par le Canada et soutenue par les pays européens et Israël révèle l'hypocrisie de ses parrains. Il a déclaré que l'utilisation instrumentale d'organismes internationaux pour faire pression sur l'Iran est un exemple effronté d'utilisation des droits de l'homme pour atteindre des objectifs politiques à courte vue. Khamenei a déclaré que les parrains de la résolution font partie des violateurs de tous les principes fondamentaux des droits de l'homme dans le monde. Il a déclaré qu'au lieu d'exprimer une préoccupation hypocrite concernant les droits des Iraniens, ces pays doivent cesser d'héberger des groupes terroristes et ne pas se conformer au terrorisme économique des États-Unis contre la nation iranienne. Soulignant l'attachement de la République islamique d'Iran à la promotion des droits de l'homme et du respect de ses obligations internationales, le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré que le pays était prêt à s'engager dans un dialogue constructif et une coopération basée sur le respect mutuel et la justice, sans aucune forme de discrimination et de fin politique, et ce avec tous les mécanismes internationaux légitimes et les pays intéressés par le renforcement et la protection réelle des droits de l'homme. La résolution iranienne sur les droits de l'homme du Canada a été approuvée par 80 voix pour, 29 voix contre et 65 abstentions jeudi soir 15 décembre, lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, ce qui fait un total de 94 pays qui ont désapprouvé ce vote. Des vedettes rapides et avancées déployées dans les frontières maritimes de l'Iran. En équipant les gardes frontières du pays d'installations militaires avancées, des mesures efficaces ont été prises pour améliorer la sécurité des eaux côtières du pays et bientôt toutes sortes de navires rapides et avancés y seront ajoutés, a déclaré l'adjoint du commandement des gardes frontières de Faraja. Le brigadier général de la garde, Jalal Setare, a déclaré jeudi, lors d'un rassemblement de commandants et d'employés de la garde frontière de la province de Bushehr au sud de l'Iran, dixit, « Nous gardons et protégeons les frontières du pays en utilisant des installations militaires avancées pour respecter les droits du peuple et le gouvernement. » Il a ajouté, sur la base des protocoles et des accords de police dans les zones frontalières, les frontières du pays sont sous surveillance et contrôlées jour et nuit. Outre les progrès militaires, nous assistons à des progrès remarquables dans d'autres domaines, notamment les domaines scientifiques, technologiques, nucléaires, de la défense et médicale, ce qui a provoqué la colère du monde arrogant et des ennemis de la nation iranienne. Déclarant que les côtiers et les frontaliers sont les meilleurs protecteurs et gardes frontières de l'Iran islamique, il a ajouté « Dans la province de Bushehr, avec les gardes frontières, les côtiers assurent la sécurité des frontières maritimes du pays dans le golfe Persique. » Évoquant les campagnes malveillantes et les ruses des ennemis de l'Iran islamique à leur tête, les États-Unis, alimentés par certains pays occidentaux, le commandant adjoint des gardes frontières a déclaré « Affaiblir le système islamique, déformer les croyances religieuses et créer un fossé entre le peuple et les fonctionnaires font partie des objectifs de l'Amérique criminelle et certains de ses alliés dans la région ». Ils n'ont pas réussi jusqu'à présent à réaliser leur projet néfaste grâce à la vigilance du peuple et son intérêt pour l'ordre de la République islamique et le leadership. Le département américain de l'énergie reconnaît l'échec de l'embargo pétrolier contre l'Iran. Les statistiques fournies par le département américain de l'énergie concernant les revenus pétroliers de l'Iran au cours des 7 premiers mois de 2022 montrent que l'Iran a exporté plus de 1,5 million de barils de pétrole par jour pendant cette période, ce qui est une reconnaissance de l'échec de la politique de l'embargo pétrolier visant l'Iran. Les informations publiées par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, montrent que l'Iran est toujours l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde, malgré les sanctions américaines illégales. Au troisième trimestre de cette année, l'Iran a produit 2 566 millions de barils de pétrole par jour et est connu comme le cinquième producteur de pétrole de l'OPEP, après l'Arabie saoudite, l'Irak, les Émirats arabes unis et le Koweït. L'Iran a représenté plus de 8,7% de la production totale de pétrole de l'OPEP au cours de cette période. La production totale de l'OPEP au troisième trimestre 2022 s'élevait à 29 442 000 barils par jour. Troisième audience en Iran pour le crash d'avion ukrainien 747. La troisième audience dans l'affaire d'un accident d'avion ukrainien en 2020 s'est tenue jeudi devant le tribunal militaire de Téhéran. L'audience a débuté dans la capitale iranienne en présence des accusés, des plaignants, des familles des victimes et de leurs avocats. 10 prévenus de différents grades militaires étaient présents dans ce tribunal. Le juge Ebrahim Mehranfar a invité les plaignants à la barre et leur a demandé de parler de l'affaire et de présenter leurs demandes au tribunal. Un certain nombre de plaignants ont demandé au juge de rendre un verdict ferme pour les accusés. L'audience du tribunal a duré environ 4 heures et à la fin, le juge a dit que l'heure de la prochaine session sera annoncée ultérieurement. Un Boeing 747 ukrainien avec 176 passagers et membres d'équipage à bord a été abattu par erreur par la défense aérienne iranienne peu après son décollage de l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran le 8 janvier 2020. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Des campagnes persistantes d'iranophobie affecteront les intérêts mutuels. L'Iran met en garde l'Union européenne. Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié jeudi une déclaration sur les positions hostiles de plusieurs gouvernements européens envers l'Iran, ainsi que sur plusieurs autres questions régionales et internationales. La déclaration indique que la République islamique d'Iran est résolue à soutenir et à promouvoir les droits de l'homme en faisant fi aux clichés négatifs iranophobes basés sur les doubles standards qui ont été créés dans le cadre de la campagne de certains gouvernements hostiles au cours des dernières décennies pour discréditer l'Iran. Les droits des femmes et de tous les membres de la nation iranienne ont toujours été respectés et dans de nombreux aspects tels que l'accès des femmes à l'éducation, l'égalité des droits et le respect des droits de l'homme, et la République islamique d'Iran est l'un des principaux gouvernements qui a agi à cet effet, ajoute le texte. La République islamique d'Iran n'accepte pas les soi-disant ultimatums dans le cadre d'une campagne politique malveillante visant à exercer une pression maximale sur la nation et le gouvernement iranien en pleine croissance et condamne fermement l'instrumentalisation des instances internationales telles le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ou des valeurs par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Les forces de police ont tenté de contrôler les violences sanglantes lors des récentes émeutes et de faire face aux actes terroristes conformément aux règles et sur la base du respect des droits de l'homme, insiste la déclaration. La République islamique d'Iran, tout en rejetant l'utilisation sélective des droits de l'homme, qui s'est transformée de nos jours en un outil pour faire avancer les intérêts politiques de certains gouvernements européens et américains, rejette les doubles standards de ces régimes, utilisés au profit des pays alliés et au détriment des pays indépendants. L'Iran considère également le silence des prétendus défenseurs des droits de l'homme contre ces crimes comme un exemple clair de sacrifice des droits humains au profit d'intérêts politiques, selon la déclaration. La déclaration a également ajouté que la République islamique d'Iran ne tolérerait pas les individus et les institutions qui ont été systématiquement impliqués dans la promotion de la violence et du terrorisme et utilisera toutes les capacités juridiques et judiciaires nationales et internationales pour faire respecter les droits de la nation iranienne. En ce qui concerne les négociations de Vienne sur la levée des sanctions illégales imposées à l'Iran, le ministère des Affaires étrangères a noté que les demandes de l'Iran dans les pourparlers s'inscrivaient dans le cadre même du plan global d'action conjoint et que la longue liste de violations par les parties européennes et américaines concernant la mise en œuvre de l'accord nucléaire a contraint l'Iran d'être réaliste pour l'avenir. L'objectif de la République islamique d'Iran est de conclure un accord stable dans lequel, premièrement, le bénéfice pratique de la levée des sanctions pour l'Iran est garanti et, deuxièmement, il ne serait pas facilement violé sous l'influence de la politique intérieure des gouvernements. La République islamique d'Iran est prête à conclure les négociations sur la base du projet de négociation de Vienne qui a été le résultat des mois de consultations difficiles et intensives, indique le texte. En ce qui concerne les relations entre l'Iran et l'AIOA, la déclaration précise que la République islamique d'Iran, en tant que membre responsable du traité de non-prolifération d'armes nucléaires, TNP, a toujours coopéré avec l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la base de ses obligations internationales et déterminé à poursuivre cette coopération. L'Iran conseille aux pays occidentaux de ne pas détruire l'atmosphère de coopération technique entre l'Iran et l'Agence et éviter la politisation de la coopération. La déclaration a souligné la position de l'Iran concernant la guerre en Ukraine en réitérant sur la position fondamentale de la République islamique d'Iran à l'égard de la crise ukrainienne. Téhéran soutient l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la nécessité de mettre fin au conflit par des solutions politiques. Comme l'ont souligné à maintes reprises les autorités de la République islamique d'Iran, nous n'avons fourni aucun drone pour la guerre en Ukraine. Toute coopération de l'Iran en matière de défense et d'armement avec d'autres pays est conforme aux droits et obligations internationaux de l'Iran, insiste le texte. Ailleurs, dans la déclaration, l'importance du maintien de la sécurité régionale par les pays de la région eux-mêmes a été soulignée. La République islamique d'Iran, dans la déclaration de jeudi, a également fermement condamné l'imposition de sanctions inacceptables par l'Union européenne.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux. Aujourd'hui vient le sujet des sanctions menées par le gouvernement iranien contre l'Union européenne, les entités de l'Union européenne, les entités de certains pays, incluant l'Angleterre, le Royaume-Uni. C'est le sujet de débat d'aujourd'hui. Je vous propose, comme le veut le format, notre reportage et par la suite la venue de nos deux invités. Tout de suite, le reportage.
La police allemande s'emploie à rechercher des membres d'un mouvement d'extrême droite qui serait impliqué dans un complot visant à renverser le gouvernement à Berlin, avec des dizaines de suspects déjà en garde à vue confrontés à des interrogations et à la torture. Holger Münch, chef de la police fédérale allemande, a décrit plus tôt cette semaine les suspects comme un mélange dangereux de personnes aux convictions irrationnelles possédant de l'argent et des armes, afin de justifier les raids à travers le pays. Les procureurs du pays affirment que les comploteurs auraient visé à renverser le gouvernement en utilisant la violence et même le meurtre, le comparant au franchissement de la ligne rouge. Assez remarquablement, l'intrigue, le scénario et la chorégraphie semblent étonnamment familiers. L'afflux d'argent et d'armes, le recours à la violence et au meurtre, les tentatives de fomenter l'insécurité et la guerre civile et bien sûr, la tentative ambitieuse de renverser le gouvernement. L'Iran a tout vu ces trois derniers mois. La seule différence est que le complot de changement de régime conçu pour la République islamique d'Iran est beaucoup plus grand en taille et en échelle avec des protagonistes de différentes teintes au travail. En plus important encore, mais sans surprise, Berlin a été l'un des principaux comploteurs. Depuis que les émeutes meurtrières ont éclaté en Iran à la mi-septembre, déclenchées par la mort d'une Iranienne de 22 ans alors qu'elle était en garde à vue, les États occidentaux ont poussé de manière hyper agressive une guerre hybride contre l'Iran. Les autorités allemandes en particulier ont ouvertement et effrontément provoqué des émeutiers en Iran par des voies officielles et non officielles, allant jusqu'à faciliter une grande manifestation à Berlin fin octobre, ce qui équivalait à une ingérence manifeste dans les affaires intérieures de l'Iran. Le porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz, Stephen Eberstreit, a déclaré mercredi 7 décembre que l'extrémisme de droite constituait la plus grande menace pour le pays tout en exprimant son inquiétude face à ce qu'il a appelé un complot de coup d'État d'extrême droite. Le même jour en Iran, le président Raïsi a proposé d'écouter tout le monde, même ceux qui avaient des opinions opposées, tout en traçant une ligne claire entre les émeutes et les protestations. Raïsi a déclaré, comme cela devient de plus en plus clair maintenant, que les troubles en Iran font partie de la conspiration hideuse visant à transformer le pays en un autre Syrie et en un autre Afghanistan, tout en pointant du doigt les États-Unis et leurs alliés, ce qui inclut bien sûr l'Allemagne. L'Allemagne, qui obtient un score extrêmement bas en matière de droits de l'homme, a mené la croisade contre la République islamique d'Iran ces derniers mois, poussant l'Union européenne à lui imposer de nouvelles sanctions tout en attisant la guerre hybride contre elle.
Nous revoilà sur nos plateaux. Je vais donc accueillir nos invités. Premier invité, M. Arnaud Develay. Bonjour M. Develay, juriste international.
Oui, bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Merci. Alors, notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel, géopoliticien. Bonjour, Monsieur Luc Michel.
Bonjour à vous et à votre équipe et bonjour à Maître Develay.
Toujours un plaisir d'avoir le plaisir d'avoir vos deux expertises, Maître Develay et Monsieur Luc Michel. Alors aujourd'hui vient le sujet donc des dernières sanctions que l'Iran a décidé d'imposer à certains membres de l'Union européenne et certaines entités, notamment du Royaume-Uni. On va également parler de l'interventionnisme qu'a subi l'Iran surtout il y a trois mois. Également leur volonté de punir ceux qui ont finalement fait de la haute trahison, parce que ça s'appelle comme ça quand on veut fomenter un complot contre l'État, bien que ce mot n'est pas exprimé par l'Europe, mais c'était bien ça. On va commencer par M. Develay. Vous-même, étant intéressé sur le sujet de la Russie et ce qui s'y passe, et surtout la manière dont les médias et les politiciens européens manipule l'information qui date depuis 2014 minimum. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de tout ce qui s'est passé et de la réaction surtout iranienne ?
Vous voulez dire par rapport à le complot d'extrême droite en Allemagne ?
Pas seulement, non, surtout la réaction des sanctions iraniennes contre l'Europe. Est-ce que l'Iran a le droit d'être en colère face à ce qui s'est passé, notamment quand on pense aux manifestations énormes, parce qu'on parle de plus de 100 000 personnes en Allemagne qui se sont retrouvées dans les rues, alors que l'Allemagne se retrouve face à une crise énergétique importante, une crise économique importante, et pourtant les gens ont trouvé du temps pour aller manifester contre un pays qu'ils ne connaissent pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez, vous, donc, de la réaction de l'Allemagne, là, ces derniers jours ? De l'Allemagne, de l'Iran, s'il vous plaît, pardon.
Oui, l'Iran a parfaitement vu au travers, si je puis dire, lu entre les lignes de ce qui se passe vraiment, et que, quand on dit les gens en Allemagne, ce sont plutôt des parties, si vous voulez, de cette opération. Votre reportage le soulignait, c'est une opération à la syrienne. On essaye de mettre en œuvre, de coordonner les mouvements factice, artificiellement, en s'appuyant sur des factions diverses et variées qui ensuite, au travers de leur relais, ont l'apparence d'avoir un pouvoir de mobilisation, mais en fait, très souvent, ce sont ce qu'on appelle des rent a crowd, c'est-à-dire qu'on loue en fait des foules pour créer des événements. Et très souvent, on s'aperçoit qu'il y a certains éléments au sein de ces événements, de ces mouvements de foule, qui sont eux-mêmes radicalisés et qui sont souvent, et on l'a vu à Paris, puisqu'on a eu le même phénomène, instrumentalisés pour attaquer souvent des bâtiments officiels de la République islamique d'Iran, et souvent sans qu'il y ait une protection anticipée sur ce sujet. Donc, on est vraiment dans la guerre hybride totale. Cela, bien sûr, à la contrepartie de ces événements à l'étranger pour faire croire qu'il y a un mouvement global, c'est évidemment les opérations de déstabilisation au sein de la République islamique d'Iran, avec encore une fois des têtes de pont de ces mouvements sécessionnistes et ethno-séparatistes qui sont financés de l'étranger et qui reproduisent ces espèces de chorégraphies à l'intérieur de l'Iran, avec encore une fois 10% de ces gens qui sont eux-mêmes extrêmement radicalisés, qui ont accès à des armes et dont l'objet est de si je puis dire, amplifier le niveau de violence en s'attaquant aux forces de l'ordre, en pratiquant des lynchages. On a vu des vidéos de membres de forces de l'ordre en Iran être lynchés par la foule, des membres du clergé à travers toutes les villes plus ou moins être aussi attaqués sans provocation quelconque, et tout ça c'est pour, si vous voulez, entraîner une forme de recrudescence, que ça fasse boule de neige, et surtout pour alimenter l'idée que le gouvernement de la République islamique d'Iran ne contrôle rien, est en train de perdre le contrôle et ne peut pas garantir la sécurité des citoyens. Et ça fait partie effectivement de ce qu'on a pu voir non seulement en Syrie, mais aussi lors du Maïdan en Ukraine, puisque c'est la même méthode qui est utilisée. On fait mine au départ de créer un cadre politique de discussion avec une sortie de crise par le haut, mais en fait c'est pour mieux, si je puis dire, préparer des opérations coup de poing, où on s'appuie sur tantôt l'extrême gauche, tantôt sur l'extrême droite. Dans le cas de l'Euromaïdan, c'était les deux. Et tout ça, c'est coordonné, bien sûr, par des services étrangers. On fait venir des mercenaires qui sont là pour servir de déclencheur, pour ensuite faire monter la violence d'un coup, encore une fois, en s'appuyant sur des assassinats de membres de forces de l'ordre, ou alors de figures politiques, de façon à créer un point de non-retour et... L'idée étant de créer une dynamique qui mène éventuellement à un changement de régime. Donc tout ça, c'est bien rodé.
Pour revenir à l'Allemagne, ouais. Ce qui est un peu risible de la situation, c'est que l'Allemagne, certes, il y a eu moins d'une semaine, s'est vue arrêter différents individus à travers tout le pays, sans jugement, juste en supposant, en faisant l'hypothèse qu'ils font partie d'un groupe, ils ont été arrêtés. La réaction a été extrêmement violente de la part de l'Allemagne, mais aucun pays de l'Union européenne n'a pensé intervenir. Aucun pays de l'Union européenne n'a pensé à condamner. Qu'est-ce que vous pensez donc sur ces deux poids, deux mesures? Parce qu'on est quand même face à un pays qui est l'Iran, qui a été face à des actions terroristes au sein de son territoire. Je parle surtout il y a 2-3 mois. Maintenant, les choses se sont redevenues comme c'était. Et en Allemagne, il n'y a pas eu d'action terroriste. Les choses ne se sont pas encore arrivées. Il y a juste une hypothèse d'attaque possible. Qu'est-ce que vous pensez donc de ces deux poids, deux mesures?
Je ne pense pas que c'est un deux poids, deux mesures. Je pense que c'est complémentaire. Si vous voulez, vous avez des révolutions de couleur au travers de guerres hybrides à l'extérieur vis-à-vis des puissances et des pays qui sont considérés comme des rivaux en termes de l'ordre géopolitique dans son évolution actuelle, c'est-à-dire l'émergence du monde multipolaire, dont l'Iran fait partie. Donc l'Iran est un gros morceau dont l'idéologie néolibérale au travers de la captation des États occidentaux essaie de, si je puis dire, éliminer. Et en interne, il faut créer l'illusion d'un ennemi intérieur. C'est le fascisme moderne du XXIe siècle, c'est un néolibéralisme, transhumanisme, globaliste. Et il a besoin, toujours pointer du doigt, une menace hypothétique à l'intérieur. En l'occurrence, le péril fasciste, on sait qu'il n'existe pas du tout en Europe. Hein, c'est ridicule, il n'y a pas de menace fasciste en Europe. Lionel Jospin lui-même l'avait dit en quittant la vie politique en 2002, ça fait déjà 20 ans, que toute la lutte contre le fascisme durant sa carrière politique n'était qu'un vaste théâtre. Donc quand on nous annonce tout d'un coup, et c'est mis en scène de telle manière que on peut penser que c'était imminent, qu'il y avait des figures extrêmement haut placées. On nous sort de la naphtaline une espèce de crypto-prince, je ne sais quel noble nostalgique de la République de Bismarck, que sais-je encore. Mais on n'oublie pas d'ajouter que parmi les 25 interpellés, il y avait quelqu'un de citoyenneté russe, vous voyez, comme par hasard. Donc la communication, on voit qu'elle est cousue de fil blanc, c'est… L'information en Occident ces temps-ci, c'est non seulement de la désinformation, mais c'est grotesque dans le sens où on s'aperçoit que ça n'a absolument aucun sens, c'est complètement disproportionné. Et le mode opératoire qui est utilisé pour mettre en avant ce genre d'information, entre guillemets, est lui-même rédhibitoire. Donc, si vous voulez, pour quiconque observe un peu les médias et suit surtout les évolutions géopolitiques, on réalise qu'en fait, c'est un système qui est aux abois, qui n'a pas d'autre choix que d'avancer ses pions maintenant ouvertement, donc les masques sont, si je puis dire, retirés, et qui fait fi de toute critique objective, c'est-à-dire que le terme de référence eux-mêmes, quant à la réalité et à la définition des choses, cognitivement parlant, est complètement mis de côté. Ils ne tiennent que parce qu'ils contrôlent en fait les modes de communication et les moyens de dissémination de l'information. C'est tout. Mais merci. On est dans une réalité orwellienne.
Merci, Maître Develay. Monsieur Luc Michel, vous-même, vous situant en Europe, qu'est-ce que vous pensez donc de la réaction iranienne, qui n'a pas été la seule réaction que de mettre des sanctions, puisque Amir Abdullahian et d'autres personnes diplomates de l'État iranien ont indiqué qu'il fallait que les Européens arrêtent d'intervenir parce que les manifestations auraient pu se passer de manière beaucoup plus pacifiste, moins d'attaques auraient pu se passer et donc moins de réactions et moins de condamnations auraient pu se faire si les Européens n'étaient pas intervenus, les Européens, les Américains, les Canadiens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la réaction iranienne? Est-ce que vous la trouvez proportionnée à ce qui s'est passé?
Écoutez, c'est la vieille histoire de la paille et de la poutre. La poutre, elle est dans l'œil de Berlin. Berlin, en compagnie de Bruxelles, de Londres, et de Paris et de Washington, organise une révolution de couleur en Iran avec des éléments terroristes. Mais la paille, elle est dans l'œil de Berlin. Je déplore que vous soyez tombé dans la propagande de l'OTAN. Il n'y a pas du tout de complot ou de tentative de putsch d'extrême droite en Allemagne. Il y a une vaste vague de répression dans toute l'Europe contre les réseaux pro-russes. La pointe de cette répression, elle est en Allemagne, elle est en Tchéquie, où maintenant être pro-russe est criminalisé par la loi. Et elle a lieu en Belgique. Je connais bien le dossier belge parce que je suis le principal accusé avec le président du Parlement flamand, indépendant des flamands, Philippe de Winter. Nous sommes les deux principaux accusés d'une vaste campagne dans la presse belge. Il s'agit d'attaquer les réseaux pro-russes. En Allemagne, il y a des manifestations pro-russes qui ont lieu notamment à Berlin toutes les semaines. Elles ne sont pas organisées par l'extrême droite. Elles sont organisées par un mouvement de gauche qui s'appelle Die Linke et qui est majoritaire à Berlin-Est, qui est l'héritier du Parti communiste d'Allemagne de l'Est et qui a des députés au Parlement allemand. Il ne faut donc pas tomber dans la propagande de l'Iran. Maintenant, l'Iran a eu raison d'appliquer des contre-sanctions comme les Russes le font. Elle montre qu'aujourd'hui, à Pékin, à Téhéran ou à Moscou, on n'a plus peur des Occidentaux.
Et quand on regarde la liste des entités ou des personnes qui ont subi les sanctions, ce sont des entités qui sont connues pour faire l'interventionnisme. L'Iran est extrêmement surtout en colère après l'Allemagne parce que l'Allemagne a été le principal responsable de ce qui s'est passé à l'époque de Saddam Hussein. Ils leur en veulent. Et normalement, est-ce que vous comprenez la colère iranienne à l'encontre des Allemands en pensant que non seulement ils sont intervenus aujourd'hui, mais ils ont déjà fait l'interventionnisme auparavant qui ont provoqué la mort d'énormément de personnes. On se rappelle l'utilisation de bombes de bombes chimiques. Qu'est-ce que vous pensez donc de la réaction iranienne par rapport aux Allemands?
Je crois surtout que la réaction est actuelle. Il faut savoir que l'Allemagne est en concurrence avec Paris pour être le meilleur complice des États-Unis au sein de l'OTAN. Il y a des fondations allemandes, la Friedrich Ebert Stiftung, la Robert Schuman Stiftung, qui sont organisées sur le modèle des vitrines légales de la CIA aux États-Unis. Ceux-ci sont intervenus dans les élections à Madagascar. Ils interviennent dans une ancienne colonie allemande, le Cameroun, où ils sont très puissants pour renverser pour lui. Hein. Et ils interviennent évidemment également en Iran. Ils organisent des manifestations. Ils soutiennent les monarchistes ou les moudjahidines du peuple. Et la colère, évidemment, de l'Iran, évidemment, ce n'est pas une colère qui remonte à 50 ans. C'est une colère qui est très actuelle. Les Iraniens, comme les Russes, ils ont attaqué, évidemment, ceux qui sont directement derrière ces tentatives de révolution de couleur. Il faut savoir, par exemple, que tous les députés au Bundestag allemand, comme tous les députés au Parlement européen, sont interdits d'entrer et sont sanctionnés par la Russie. Voilà ce qu'il faut savoir. Ces gens qui donnent des leçons de démocratie et de droits de l'homme, ce sont des hommes qui sont des complices du terrorisme. Dans toute l'Afrique, les députés européens ou les députés allemands soutiennent les révolutions de couleur. Nous avons un cas ce mois-ci, par exemple, en Guinée équatoriale, où des mouvements d'opposition putschistes qui sont groupusculaires à Paris ou à Madrid sont soutenus par le Parlement européen officiel ou par des gens comme le Parti socialiste ou comme Mélenchon. C'est cela l'hypocrisie des Occidentaux. Les Occidentaux, en fait, c'est tout, sauf les droits de l'homme et la démocratie.
Oui, j'ai envie de mentionner aussi à l'époque de Sarkozy, du président Sarkozy en France, il y avait eu des informations de la Panafrique qui expliquaient que la France ordonnait la mort de milliers de personnes sur tout le continent africain. Est-ce que vous confirmez ces informations ?
Écoutez, il y a un livre qui est paru en 2015 qui s'appelle « Les tueurs de la République ». Elle explique comment les présidents depuis Charles de Gaulle jusqu'à François Hollande, et maintenant on peut ajouter Nicolas, on peut accuser Macron évidemment, ils se sont donné le droit de décider d'exécution extrajudiciaire, ce qu'on appelle dans les services secrets la DGSE et avant le SEC, les opérations homo ou homicide. Ils ont notamment exécuté 52 chefs d'État et vice et premiers ministres africains depuis 1960. On note dans le livre que François Hollande particulièrement se réjouissait, se délectait de ce pouvoir de droit de vie ou de mort qui s'est adressé. Les Français organisent aussi le terrorisme. Il y a l'affaire en Nouvelle-Zélande du Rainbow Warrior. Il y a eu surtout en 1986 l'utilisation du terrorisme par la France contre l'Iran. Particulièrement, les Français ont tenté de faire sauter à la voiture piégée, l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Ils ont échoué parce qu'on a retrouvé la voiture non explosée appartenant à l'ambassade de France à Beyrouth. Les Français sont des terroristes, ce sont des assassins, ce sont les tueurs de la République.
Mais dans l'Union européenne, les Français seuls ne font pas ce genre de politique interventionniste. Maître Develay, un conseil à nos auditeurs concernant donc cette guerre médiatique, cette guerre de l'information qui est de plus en plus forte puisqu'on ne sait plus quoi croire ni quoi lire. Quelques conseils en conclusion de cette situation qui s'est passée en Iran, des informations qui sont écoutées de l'Iran, mais à l'extérieur, hein, des entités, des radios, des chaînes qui ne sont pas du tout iraniennes, qui parlent en persan, mais qui n'ont même pas, les journalistes n'ont même pas un pied en Iran directement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet-là, en quelques mots, s'il vous plaît ?
Écoutez, c'est très simple. Je dirais simplement que quand vous entendez une thématique traitée ad nauseam, à outrance, du matin au soir, avec, semble-t-il, des moyens disproportionnés, alors que, bon, on peut penser qu'il y a certainement d'autres choses dans le monde, posez-vous la question, qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce qu'on essaye de mettre en avant ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi avec telle intensité ? Et partant de là, posez-vous les bonnes questions et regardez les événements récents concernant la thématique en question dans le pays où vous vivez pour voir si il y aurait des raisons qui pousseraient le pays dans lequel vous vivez, pour peu que ces reportages soient repris en boucle, à mettre en avant ce genre d'informations. Et pourquoi ils le font maintenant et surtout aux dépens de quoi d'autre ? C'est ça qui est très important à savoir. J'illustrerai mon propos en mettant en avant cette histoire de corruption au sein du Parlement européen. Louis Michel en a parlé. On parle beaucoup, effectivement, comme par hasard, d'un lobbying du Qatar, que l'argent viendrait du Qatar. Le Qatar est en train, visiblement, de réussir à l'organisation d'un événement crucial. Le Qatar est un allié de la République islamique d'Iran. Et on peut se demander surtout qu'est-ce que ça cache. Ça cache surtout la corruption qui existe.
Et notamment le Qatar l'a signé. Excusez-moi de vous couper, notamment le Qatar, on a fait beaucoup de bruit là-dessus, le fameux contrat gazier avec l'Allemagne qui finalement représente que quelques pourcents du besoin en énergie de l'Allemagne. Donc finalement une défaite, on l'avait présenté comme une réussite diplomatique entre l'Allemagne et le Qatar qui finalement représente une défaite puisqu'on a appris très récemment que ces contrats ne représentaient qu'une infime partie en besoin énergétique de l'Allemagne. Donc ça s'ajoute. Je vous en prie, continuez.
Non, juste pour dire que corruption ennemie, en se penchant sur… effectivement, on pourrait… Il y aurait des choses à dire probablement sur les modes d'organisation de la construction des stades, c'est une chose, mais la compétition leur a été octroyée il y a 12 ans, c'était il y a 12 ans qu'il fallait se poser ces questions, pas maintenant, de toute façon. Et surtout, ça cache, encore une fois, d'autres corruptions qui concernent surtout les modes d'attribution des contrats pour les soi-disant vaccins entre la Commission européenne et les fabricants pharmaceutiques. Donc, c'est surtout ça qu'on essaye d'obfusquer. Et c'est comme ça qu'il faut surtout analyser donc, l'information de manière générale. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça cache dans la même veine? Est-ce que ce n'est pas quelque chose, une forme de grain à moudre qu'on donne à l'opinion publique pour créer ce qu'on appelle cette diversion, cette misdirection, comme on dit en anglais? Ça permet de satisfaire et de calmer les passions populaires et de permettre à des gros poissons d'échapper à la vindicte.
Merci, Maître Develet. Monsieur Luc Michel, un petit mot pour conclure.
Oui, il faut comprendre que nous sommes dans une guerre de l'information. Les Américains et les Français ont perdu la première bataille en Afrique et ils sont en train de la perdre en Europe. Ils sont donc à la contre-offensive. Les Américains ont créé un organisme qui s'appelle le Global Engagement Center pour mener la guerre de la communication. C'est un organisme qui dépend du Pentagone et les Français ont développé le concept de cyberguerre. Ils ont confié la cyberguerre à l'état-major français sous le commandement d'un général français, le général Yanis, et ils ont confié ça aux États. Ces gens-là emploient toutes les méthodes, particulièrement, par exemple, on donne un exemple en Centrafrique. Facebook a été obligé de fermer des centaines de comptes de faux comptes français qui étaient dirigés par l'armée française pour mener la guerre de l'information. Dès lors, il faut se méfier de toutes les informations qui sont données par les Français, les Anglais, les Américains, etc. Nous sommes dans la désinformation et dans les médias mensonges.
Merci Luc Michel, géopoliticien, maître Arnaud Develet, juriste international. Je vous remercie de votre expertise. Vous, auditeurs, je vous remercie de nous écouter et de nous suivre. N'hésitez pas à re-regarder ou à suivre nos autres débats sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet du débat, ici, dans la capitale iranienne, Téhéran.
Parole d'experts.
Le G7 a promis lundi 12 décembre de répondre aux besoins urgents de l'Ukraine après que le président Volodymyr Zelensky a lancé un appel lors de la réunion virtuelle du G7 pour la livraison des chars modernes, une puissance de feu d'artillerie et des armes à longue portée, tous destinés à être utilisés dans la guerre contre la Russie. Comment peut-on analyser cette demande faite par le président ukrainien et à qui profite le prolongement du conflit? Décryptage avec Xavier Dupré, économiste et analyste politique.
Un premier fait concernant le conflit en Ukraine concerne clairement l'aide occidentale au président Zelensky. Il est évident que sans cette aide massive des États-Unis et de l'Europe occidentale, le gouvernement ukrainien n'aurait pas tenu le choc face à l'armée russe. C'est un premier élément. Donc évidemment, dans ces conditions, il y a une certaine forme, si vous voulez, d'extension indirecte du conflit vers l'Europe de l'Ouest. Ça, c'est évident. Donc la doctrine militaire russe classique, qui n'envisageait pas de frappe préventive, contrairement à la doctrine américaine. Donc le concept de frappe préventive, à l'origine, est une trouvaille, est un concept états-unien. Donc cette idée qu'il devrait y avoir éventuellement une frappe préventive, ma foi, elle correspond quelque part à une logique, qui est cette logique d'extension du conflit via une aide militaire et financière massive des Occidentaux en faveur du gouvernement ukrainien. Alors je crois qu'il faut aussi préciser que pour l'instant, cette révision de doctrine en ce qui concerne l'utilisation d'une frappe préventive nucléaire n'en est en Russie qu'au stade de la réflexion. Alors le fait de communiquer à ce sujet, en revanche, constitue, lui, une initiative et une action politique. En politique, parler, c'est déjà agir, puisque c'est quelque part tenter de modifier les perceptions de son ou de ses adversaires. En l'espèce, ce que demande Vladimir Poutine, vraisemblablement à travers cette demande, enfin, à travers cette annonce, qui n'est jamais que l'annonce d'une réflexion sur une doctrine stratégique. Donc c'est pas plus que ça. Vladimir Poutine n'a donc pas annoncé qu'il allait frapper préventivement des pays occidentaux. Je crois que c'est beaucoup plus un effet d'annonce, c'est-à-dire que nous avions eu l'occasion de discuter du fait qu'aujourd'hui, bien devant les conséquences économiques tout à fait dramatiques de la guerre en Ukraine, en France, en Europe occidentale et plus particulièrement en France, Emmanuel Macron, quitte à être tensé par un certain nombre de gouvernements en Europe orientale, et on pensait notamment aux Pays-Baltes, Emmanuel Macron plaidait pour que on intègre dans les paramètres d'une grande négociation les exigences de sécurité de la Russie. Je crois qu'avec ce type de déclaration, Vladimir Poutine rappelle un certain nombre d'exigences de sécurité qui sont importantes pour Moscou et quelque part conditionne et pose le cadre finalement d'un certain nombre de lignes rouges qui ne pourront pas être dépassées si tant est qu'il y ait encore aujourd'hui, un espoir pour la diplomatie. Et quitte à me répéter, comme nous l'avions vu, il y a toujours une demande de solution diplomatique à ce conflit à Paris. Donc, je pense que Vladimir Poutine pose un cadre qui finalement correspond aux perceptions, en tout cas d'Emmanuel Macron et d'un certain nombre de dirigeants occidentaux. Il faut intégrer dans la discussion un certain nombre de lignes rouges qui garantissent la sécurité de la Russie. Autrement dit, l'otanisation complète de l'Europe centrale et orientale constitue aujourd'hui un échec et il faut repenser une architecture de sécurité collective qui, quelque part, limite l'influence de l'OTAN sur le vieux continent. Voilà, ça, ce sont les paramètres de départ. Je pense que Vladimir Poutine, à travers cette déclaration, rappelle ces exigences. Je crois aussi que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, ces lignes rouges, ces balises qui ont été posées par Moscou, seront intégrées par les Occidentaux. Puisqu'il faut quand même se rendre compte que la crise de l'énergie va encore durer jusque 2025-2026. Et même si on assiste aujourd'hui à une baisse du prix du gaz, on voit bien que si l'hiver était beaucoup plus rude que prévu, nous serions sans réserve en Europe occidentale. Donc, en situation de vraie pénurie, avec un risque de désindustrialisation tout à fait majeur. Donc, dans ces conditions, le fait que Vladimir Poutine rappelle un certain nombre de balises, de lignes rouges, ça pose le cadre d'une éventuelle négociation, d'une éventuelle porte de sortie diplomatique qui permettrait d'aménager une autre architecture de sécurité collective en Europe. Et quelque part, bon, on peut s'imaginer que dans le chef des États-Unis, c'est évident, ça fait l'objet. Je veux dire, quand Vladimir Poutine évoque cette réflexion sur un réaménagement de sa doctrine nucléaire, les États-Unis s'emportent, les États-Unis condamnent. Alors, je crois qu'il ne faut pas être dupe, hein, ils ne condamnent pas un changement de doctrine, puisque Vladimir Poutine dit lui-même qu'il s'agit là d'une réflexion. Ce qu'ils entrevoient avec une certaine angoisse, c'est l'avènement d'un concert européen des nations qui, en ce qui concerne des matières de sécurité collective, ne passe plus exclusivement par l'OTAN. Donc vraiment, on peut dire quelque part qu'avec ces déclarations-là, Vladimir Poutine pose un cadre qui, quelque part, met la totalité des nations européennes devant un certain nombre de choix fondamentaux. Et nous sommes arrivés à un carrefour, et il faut poser ce constat. L'otanisation de l'Europe centrale et orientale ne garantit plus aujourd'hui notre sécurité collective. Et devant cette évidence, la guerre en Ukraine en est la démonstration, devant cette évidence, de grandes réorientations devront être mises en œuvre dans les mois et les années qui viennent.